Vous écoutez, on lit pour vous.
1500 condos pour des sans-abri, un texte d'Henri Wallet Vézina, publié le 25 novembre 2025 dans La Presse. Martin déménagera bientôt dans un condo près du métro Place des Arts. Ayant vécu dans la rue, il ne pensait jamais pouvoir habiter au centre-ville. Le Montréalais participe au projet de l'organisme « Toi à moi, Canada », qui a déjà acheté 5 condos pour loger des sans-abri. Il demande aujourd'hui le soutien du gouvernement pour en acquérir 1500 d'ici 10 ans. Citation: « Je n'en reviens tout simplement pas. L'appartement est tellement beau et lumineux, je ne pensais jamais pouvoir vivre au centre-ville dans le quartier des spectacles. Ellipse. Enfin, je vais pouvoir relaxer, avoir un vrai beau chez moi », relate Martin, qui préfère demeurer anonyme pour faciliter sa transition vers le logement. Aux prises avec des problèmes de santé et accompagné depuis quelques années déjà par les intervenants de la Maison du Père, l'homme attendait d'avoir un espace de vie depuis des mois, mais en vain. Il a d'abord perdu son appartement dans la foulée d'une infestation de punaises de lit et vivait en refuge depuis, n'ayant pas les moyens de payer un loyer. C'est finalement « Toi, à moi, Canada », qui lui a trouvé un condo ces dernières semaines. Comme révélé dans nos pages en juin, cet organisme, piloté par l'ancien commissaire en itinérance de la Ville de Montréal, Serge Larrault, s'inspire d'un concept français né il y a 15 ans. Il s'est donné pour mission d'acheter des condos, de les faire financer par des dons privés, puis d'y installer des sans-abri en transition. Le tout vient avec de l'accompagnement communautaire. Des intervenants d'organismes partenaires, dont le Chaînon et la Maison du Père, gravitent autour de la personne locataire pour l'aider dans le quotidien et la cohabitation avec les voisins, surtout au début de l'emménagement. Ces derniers mois, 5 condos d'une chambre ont été achetés, en moyenne pour 280 000 $. Construire des logements aurait coûté beaucoup plus cher, selon M. Larrault. Les logements sont situés dans l'Est et au centre-ville, soit près des métros Frontenac, Honoré-Beaugrand, Berry-UQAM, Baudry et Place d'Armes. Surtout, 300 « parrains », parrains entre guillemets, les donateurs qui contribuent à la mise de fonds pour acheter les logements, se sont manifestés en donnant de 25 à 30 $ par mois à l'organisme. Citation: « On a même des gens en dehors de Montréal qui ont donné. La preuve est faite pour nous que les gens veulent contribuer », note M. Larrault, fin de citation. Juste avant Noël, son groupe démarrera sa deuxième campagne de financement avec l'objectif de recruter 2000 parrains et marraines, ce qui permettrait d'acheter jusqu'à 75 logements dans la prochaine année. Alléger la bureaucratie. Outre les dons privés qui financent l'opération des condos, « Toi à moi, Canada » aurait besoin de l'aide du gouvernement pour acquérir plus de logements, estime son directeur général. L'objectif est ambitieux: acheter 280 logements en 5 ans et 1500 d'ici 2035, toujours selon le même modèle. Citation: « On appelle toute la communauté à l'action. C'est une innovation qu'on a entre les mains. Il ne faut pas passer à côté en pleine crise », résume M. Larrault, fin de citation, qui tiendra une conférence de presse ce mardi pour inviter Québec dans la discussion. Les programmes gouvernementaux actuels, citation, financent à peu près 50% des sommes nécessaires à l'acquisition de logements abordables ou sociaux, explique M. Larrault. Nous, on souhaite recevoir la même chose, sauf que le programme, dans sa forme actuelle, exclut les copropriétés. Il faut acheter des terrains vagues ou des immeubles à requalifier, comme d'anciennes églises. Fin de citation. Il y a une ligne à changer dans les programmes d'habitation, mais il ne faudrait pas que ça prenne 10 ans, puisque c'est maintenant que les besoins sont criants. Serge Larrault, directeur général de Toi à moi, Canada. Sans chiffrer précisément sa demande, le gestionnaire assure toutefois que son concept pourra être reproduit partout au Québec. Citation: « On commence à Montréal, puis on ira en banlieue, mais après ça, on veut acheter environ 150 condos par année un peu partout au Québec, surtout dans des villes où les organismes n'ont pas toujours les reins assez solides pour se lancer dans la construction de logements sociaux, dit-il, fin de citation. Avant le remaniement ministériel de septembre, Toi à moi Canada avait rencontré la ministre de l'Habitation, Sonia Bélanger. Il compte rencontrer prochainement sa successeure, Caroline Proulx, ainsi que la nouvelle mairesse de Montréal, Soraya Martinez-Ferrada. Pour son démarrage, il y a quelques mois, Toi à moi Canada, qui compte 5 employés contractuels, a reçu un don de 2 millions sur 3 ans de la Fondation Famille Gauthier, dont le président, Martin Gauthier, est également cofondateur de Toi à moi Canada. Citation: « Il faut foncer tout en étant pragmatique. On offre une solution concrète, économique, rapide et permanente », dit M. Gauthier, aussi président de l'organisme. Selon lui, les gens d'affaires, les fondations et surtout les gouvernements doivent profiter de cette opportunité que l'organisme crée, Ellipse, pour aider les personnes immédiatement, ceux et celles qui, ce soir, dans un refuge, espèrent retrouver un toit. » Fin de citation. Qui est Serge Larrault? Il a été commissaire à l'itinérance de la Ville de Montréal pendant 9 ans, un poste qu'il a quitté au mois de décembre dernier. Auparavant, M. Larrault avait dirigé le journal de rue L'Itinéraire pendant 20 ans. Depuis quelques mois, il est le directeur général de Toi à moi Canada. C'était Objectif 1500 condos pour des sans-abri, un texte d'Henri Ouellette-Vézina, publié le 25 novembre 2025 dans La Presse.
Trois beaucerons avec 45 ans d'ancienneté en entreprise adaptée. Un texte de Philippe Grenier, publié le 5 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada. La fierté. C'est le premier mot qui vient en tête pour Michel Leclerc, Michel Turmel et Adrien Boutin lorsqu'ils pensent à leurs 45 années de travail pour le groupe Aptas, une entreprise adaptée à Sainte-Marie-en-Beauce. C'est l'implication, la passion, la fierté de pouvoir travailler, de prouver à la société, même en 2025, que nous, les personnes avec limitations, nous avons notre place entière à travers cette société technologique et extrêmement rapide, révèle Michel Leclerc, au sujet du secret de leur longévité. Tout sourire. Ils sont fidèles à leur poste, mais la nostalgie n'est pas bien loin. En 1980, un orienteur dirige Michel Leclerc vers l'usine de fabrication de boîtes de carton de l'OBNL. Ça m'a donné une certaine autonomie. Ça m'a même permis de rencontrer mon épouse Lorraine. C'est une grande famille, malgré les petites difficultés quotidiennes, il y a une bonne collaboration. Une grande famille. Depuis 1990, Michel Leclerc est président du comité des travailleurs. Le groupe Aptas compte 130 employés répartis dans 3 usines de la région. Salut, mon Adrien, comment ça va? En forme? Demande Michel. Parti jaser avec son collègue Adrien Boutin un peu plus loin, lui aussi, avec 45 années d'expérience. Leurs tâches ont évolué avec les années. Au commencement, c'était plus dur. De l'ouvrage à bras, pas de lift. On chargeait des vannes à la mitaine, on déchargeait des vannes à bras, explique Adrien en plaçant une autre boîte sur une palette de bois. Un emploi valorisant, qui lui aura permis de développer une passion pour l'administration de ses affaires. « Je suis un bon administrateur. Avec le travail fait ici, ça m'a fait un fonds d'argent, je me suis gâté avec un char neuf, puis j'en ai passé 4 voitures. » lance-t-il fièrement. Des employés tissés serrés pour Karine Gravel, la directrice générale du groupe Aptas. « C'est une très grande fierté et C'est personnellement ce qui me motive dans le cadre de mon travail, admet-elle. Karine Gravel, directrice générale du groupe Aptas. La mission de l'entreprise est d'embaucher des personnes vivant avec des limitations fonctionnelles afin de leur permettre de travailler dans un environnement adapté à leurs capacités et à leur réalité. Redonner au suivant. Implication sociale, bénévolat, covoiturage, raccompagnement avec Opération Nez Rouge. Les travailleurs redonnent au suivant aussi à l'extérieur des murs de l'usine, fiers de leur contribution à la société, explique Karine Gravel. Ils sont une référence par rapport à leurs autres collègues, toujours en discussion. Ils sortent ensemble en dehors du travail, ça devient un réseau social. Un peu plus loin, dans l'usine, Michel Turmel est une personne sourde-muette, lui aussi a redonné au suivant au fil de ses 45 ans dans l'entreprise adaptée. Tu aides beaucoup les gens. Tu partages beaucoup avec les autres. Moi, tu m'aides beaucoup, traduit sa collègue Christiane Rousseau avec la langue des signes. Cette dernière est atteinte d'une surdité chronique. À son arrivée, il y a 15 ans, elle a voulu établir un dialogue avec Michel, qui est devenu un bon ami. Il faisait des signes. J'ai dit « C'est quoi ça veut dire ?» Il m'a montré quelques-uns. J'ai cherché à avoir des cours, difficiles à trouver. J'ai été sur des applications sur Internet et c'est comme ça que j'ai commencé à apprendre la langue des signes, se rappelle Christiane Rousseau, qui va s'ennuyer de son collègue lorsqu'il partira à la retraite. Mais ce n'est pas pour demain. C'était Trois Beaucerons avec 45 ans d'ancienneté en entreprise adaptée, un texte de Philippe Grenier, publié le 5 janvier 2026 sur le site de Radio-Canada.
Quand l'espoir vient des citoyens, un texte de Philippe Mercure, paru le 2 janvier 2026 dans la presse. Très critique du gouvernement du Québec, qui l'accuse carrément de miner notre vivre ensemble, Gérard Bouchard trouve l'espoir du côté des citoyens plutôt que des politiciens par les temps qui courent. Le grand sociologue affirme, par ailleurs, qu'il suivra avec curiosité la flamme souverainiste qui se rallume chez les jeunes en 2026. Ce que je vois de plus intéressant vient de la base, du côté des citoyens. Alors qu'en haut, là, monsieur, c'est moins beau, me lance Gérard Bouchard. Lorsque je demande au sociologue de préciser ce qu'il entend exactement par « en haut », j'ai droit à du grand Gérard Bouchard. En haut, c'est un grand concept sociologique sophistiqué, ça, en haut. S'exclame-t-il d'un ton faussement bourru. Me sentant désarçonné au bout du fil, il éclate d'un grand rire. Le ton est donné. Interviewer Gérard Bouchard sera tout sauf ennuyant. Ce monument de l'histoire et de la sociologie a co-dirigé la fameuse commission Bouchard-Taylor sur les accommodements raisonnables, a enseigné à Harvard, a écrit de nombreux ouvrages et, à 81 ans, le sociologue chéri des Québécois est vif, drôle, versant autant dans l'autodérision que dans les critiques acerbes. Des critiques qu'il dirige beaucoup vers le gouvernement du Québec actuellement. C'est là, en haut, qu'il déplore les plus grandes dérives. Mon intention n'était pas nécessairement d'amener mon interlocuteur dans l'arène politique, mais il y a sauté lui-même à pieds joints. Lorsque je lui demande ce qu'il souhaite collectivement aux Québécois pour l'avenir, sa réponse est immédiate. Je souhaiterais que tout le débat sur l'identitaire perde enfin de l'actualité. L'identitaire est un sac vide. Cette affaire-là ne va nulle part. C'est un débat qui divise, mais qui n'ouvre pas sur grand-chose. Il enchaîne en dénonçant la désinvolture avec laquelle, selon lui, le gouvernement Legault écarte les droits fondamentaux pour imposer sa vision de la laïcité. Ça relève d'un sentiment anti-religieux. « Je ne vois pas autre chose », dit-il. L'idée qu'une société, pour être laïque, doit repousser le religieux dans ses derniers retranchements pour qu'il ne soit finalement plus visible du tout, ce n'est pas un idéal pour une société, ça. Ou alors, si c'est un idéal, ça en est un qui repose essentiellement sur la violation d'un droit fondamental. On vit encore sur cette espèce de revanche que l'on prend contre les abus du clergé que notre société a subi jusqu'au milieu du XXe siècle, analyse-t-il. On avait de sacrées bonnes raisons de le faire. On a beaucoup souffert. Mais là, il faudrait en finir avec ça. On ne va quand même pas vivre sur ce ressentiment de génération en génération. Je lui ai fait remarquer que bien des Québécois sont d'accord avec un renforcement de la laïcité au nom de l'égalité entre les hommes et les femmes. On en est venu à percevoir que les deux sont incompatibles, déplore-t-il, que pour défendre les droits des femmes, il faut faire reculer le religieux. Le sociologue estime que la loi 21 sur l'interdiction du port de signes religieux par les enseignants, ainsi que les projets de loi visant à élargir cette loi aux éducatrices de garderie, notamment, sont dangereux pour notre vivre ensemble. Le dommage que ce gouvernement va causer chez les musulmans, chez les jeunes musulmanes, ces gens-là ne sont quand même pas des monstres, ce sont simplement des croyants. S'ils dénoncent les dérives en haut, Gérard Bouchard reprend espoir en regardant en bas, c'est-à-dire du côté des citoyens. C'est là qu'il observe des exemples du modèle d'intégration qu'il prône depuis longtemps, l'interculturalisme. Brève parenthèse théorique. Là où l'assimilation cherche à effacer les différences et où le multiculturalisme laisse se développer des cultures séparées et souvent isolées, l'interculturalisme prône l'intégration à une culture et une langue commune, mais avec un respect de la différence et des droits de chacun. Un modèle qui implique aussi des échanges et une curiosité envers l'autre. Il y a un paquet d'institutions qui l'ont appliqué à leur niveau, que ce soit dans les écoles primaires ou secondaires, observe Gérard Bouchard. Les enseignants et les directions ont réfléchi et ont mis au point des façons de gérer la diversité culturelle et religieuse. Il y a une véritable réflexion pratique qui avance. Je trouve ça magnifique, ce dynamisme-là. Le frère de Lucien Bouchard voit la même chose se déployer dans les villages de sa région, le Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui accueille des immigrants depuis quelques décennies à peine. Ils en font un défi de rendre les immigrants heureux, dit-il. Ils ont développé des modèles et il n'y a pas de problème de racisme là-bas. Ils le font à partir de la culture du Lac-Saint-Jean, des valeurs que le défrichement a inspirées, des valeurs d'égalité, de justice sociale, de solidarité, d'entraide, d'accueil. Ça réussit, et c'est quand même étonnant. Le terrain est solide. Le sociologue avait fait un constat similaire lors des audiences de la fameuse commission Bouchard-Taylor, qu'il a co-présidé avec le philosophe Charles Taylor en 2007. Parfois, un musulman se levait pour faire une intervention, raconte-t-il. Puis, un non-musulman se levait pour le critiquer, le tourner en ridicule et lui dire des choses vraiment impolies. Charles Taylor et moi, on n'avait même pas besoin d'intervenir. C'est la salle elle-même qui intervenait. Franchement, ce qu'on voyait, c'était une culture civique étonnante qu'on n'aurait pas soupçonnée. Si Gérard Bouchard salue ces initiatives citoyennes, il déplore que chaque communauté doive instaurer son modèle sans ligne directrice, ni sans leadership d'en haut. Lui-même a pourtant été pressenti 3 fois par des ministres à Québec pour établir une politique d'interculturalisme pour la province. Quand le projet arrivait à terme et qu'il fallait le coup de pouce d'en haut, donc du premier ministre, il se retrouvait sur les tablettes, explique-t-il. Ne me demandez pas pourquoi. Je n'ai jamais compris. Parmi ses souhaits pour l'avenir se trouve aussi une véritable réconciliation avec les Autochtones. Il serait grand temps de faire avancer ce dossier de la réconciliation, dit-il. Les grands projets d'Hydro-Québec, notamment, qui sont annoncés sur les territoires autochtones, peuvent représenter une occasion de régler ça. Ça peut être déterminant. Outre le vivre ensemble, Gérard Bouchard se dit inquiet pour le Québec pour plusieurs autres raisons. Sous-financement de la culture, incapacité à mener à bien de grands projets, infrastructures en piètre état. Nous sommes une société en souffrance dans plusieurs domaines, juge-t-il. Prenez l'école à 3 vitesses. Je trouve ça terrible pour une société comme la nôtre. C'est une injustice considérable, concrète, facilement mesurable, lance-t-il. Il espère qu'on osera s'y attaquer en 2026. Un autre phénomène occupera son attention, le retour de la question nationale, lui qui ne se cache pas d'être souverainiste. Le Parti québécois a promis un référendum s'il est élu. Et les sondages montrent un regain de l'option souverainiste chez les jeunes. C'est inattendu, dit-il. Il y a une flamme qui renaît. Mais de quoi se nourrit-elle? Je pense qu'il y a du travail à faire pour comprendre ce qui se passe vraiment chez les jeunes. Comment s'inscrira ce nouvel élan pour la question nationale dans une société déjà tiraillée par plusieurs courants, dont ce fameux mouvement identitaire qu'il dénonce? Le sociologue avoue humblement qu'il n'en sait rien, mais promet de garder un œil attentif. Est-ce que le débat se fera dans les mêmes termes que les 2 premiers référendums? Est-ce que ça va donner un débat qui sera différent? Bien honnêtement, je serais bien en peine de vous le dire, dit-il. La seule prévision que je peux vous faire pour 2026, c'est qu'on assistera à des bouleversements sur l'échiquier politique. Qui est Gérard Bouchard? Professeur émérite d'histoire et de sociologie à l'Université du Québec à Chicoutimi. Titulaire d'une chaire de recherche du Canada sur les mythes sociaux et les imaginaires collectifs. Auteur, co-auteur, directeur ou co-directeur de 40 ouvrages, de 297 articles dans des revues scientifiques et de nombreux chapitres dans des ouvrages collectifs. En 2007, il a été nommé co-président avec Charles Taylor de la Commission de consultation sur les pratiques d'accommodement reliées aux différences culturelles du Québec. C'était « Quand l'espoir vient des citoyens », un texte de Philippe Mercure, paru le 2 janvier 2026 dans la presse.
La violence dans les écoles atteint des niveaux alarmants. Un texte de Mélanie Marquis publié le 15 décembre 2025 dans la presse. La Fédération autonome de l'enseignement a dévoilé les résultats d'une consultation auprès d'enseignants qui témoignent du niveau alarmant de violence auquel ils font face. La violence physique et psychologique que vit le personnel enseignant a atteint des niveaux alarmants, s'inquiète la Fédération autonome de l'enseignement, FAE. Le syndicat a réclamé une rencontre avec la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, une invitation aussitôt acceptée. La vice-présidente aux relations de travail de la FAE, Catherine Renaud, a dévoilé en conférence de presse à Montréal les résultats d'une consultation à laquelle ont participé près de 2500 membres du syndicat au cours des derniers mois. « La situation est urgente. Il faut agir. Nous sommes là pour enseigner aux élèves, mais on ne peut pas le faire au détriment de notre santé, a-t-elle affirmé après avoir cité quelques témoignages de membres du personnel enseignant ayant pris part à l'exercice. Des coups et des morsures infligés par un enfant du préscolaire. Du plan d'écriture d'un récit dans lequel un élève planifie le meurtre de son enseignante sans y voir de problème. De photos à caractère sexuel reçues par une enseignante. De courriels harcelants de parents. Ce n'est pas vrai que la violence va faire partie de notre job. Et de toute évidence, ce n'est pas en imposant le vouvoiement en janvier qu'on va éradiquer la violence dans nos écoles, a ironisé la représentante de la FAE. La diminution de la violence passe notamment par la prévention, ce que le personnel scolaire n'arrive plus à faire en raison de la pénurie qui plombe le réseau, a déploré le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois à son tour au micro. La prévention, c'est avoir assez de personnel sur le terrain pour prendre soin des jeunes, voir quand ça ne va pas, et intervenir avant qu'il y ait des crises, avant que ça se désorganise, et avant qu'il y ait des chaises qui revolent, a-t-il déploré. Or, ça n'existe plus, parce qu'il n'y a pas assez de monde sur le terrain pour en faire, a-t-il lâché. Sa collègue libérale, Madoua Nika Cadet, a aussi pointé du doigt le manque de ressources, et elle ne s'est pas privée de blâmer les coupures administrées par le gouvernement de la CAQ et l'instabilité budgétaire vécue par le réseau ces derniers mois. Mais surtout, l'élu a insisté sur le fait qu'il était impensable d'imaginer que des profs, partout au Québec, se lèvent le matin et qu'ils aient peur de ce qu'ils pourraient subir de la part d'enfants parce qu'on leur dit que c'est normal d'en subir en milieu scolaire. Sonia Lebel doit s'asseoir avec la FAE pour discuter du problème, a-t-on unanimement demandé. Réponse favorable. La réponse de son cabinet n'a pas tardé. La ministre est ouverte à rencontrer la FAE pour échanger sur les données présentées. Bien que le ministère de l'Éducation du Québec agisse déjà en prévention, nous serons toujours à l'écoute du personnel scolaire pour améliorer nos actions. Car on ne peut évidemment pas tolérer la violence et l'intimidation dans nos écoles, a-t-on ajouté. Il y a environ un mois, la Fédération des employés et employées de services publics a dévoilé des chiffres préoccupants sur la violence subie par le personnel de soutien scolaire dans les établissements scolaires du Québec. Le Parti québécois a été invité à l'annonce, selon la FAE. Aucun représentant de la formation n'y a cependant pris part. C'était « La violence dans les écoles atteint des niveaux alarmants », un texte de Mélanie Marquis, publié le 15 décembre 2025 dans la presse.